Et c'est le premier rendez-vous d'information avec Clara Le Coq-Réal. Bonjour, chère Clara.
Bonjour, Caroline. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a saisi pour avis le Conseil supérieur de la magistrature. Il lui demande si le parquet national financier a pu exercer son activité en toute indépendance lors de l'enquête sur les époux Fillon. Nous reviendrons sur cette affaire en début de journal. Les stades, les hippodromes, les cinémas ont désormais une date de réouverture. Les sports collectifs peuvent reprendre avec gestes sanitaires à partir de lundi. Précision à suivre. Dans cette édition, nous irons aussi dans l'ouest de l'Allemagne où plus de 700 salariés d'un abattoir ont été testés positifs au nouveau coronavirus cette semaine. Et puis nous irons en Thaïlande, où l'utilisation de plastique jetable a augmenté de 30% ces derniers mois. Après 48 heures de polémique, Emmanuel Macron a donc saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République souhaite obtenir un avis sur les déclarations de l'ancienne patronne du parquet national financier. Éliane Houlette avait affirmé devant une commission parlementaire cette semaine avoir subi des pressions en 2017 lors de la première enquête sur l'affaire des emplois fictifs du couple Fillon. Pressions administratives et non politiques, a-t-elle dit, en évoquant sa supérieure hiérarchique, la procureure générale de Paris. Alors, Jean-Philippe Deniau, que se cache-t-il derrière ces pressions ?
Ce ne pourrait être que l'histoire d'une querelle de palais entre deux hauts magistrats qui ne s'apprécient guère. Sauf que cet épisode rouvre une plaie douloureuse de la justice française, la question de son indépendance. Deux dispositions du code de procédure pénale permettent, petit 1, à un procureur général de demander à ses procureurs des rapports sur les enquêtes en cours, et petit 2, au ministère de la justice de demander à ses procureurs généraux la transmission de ces fameux rapports. Ainsi, un ministre peut suivre en direct l'avancée d'une enquête, même si depuis la loi Taubira de 2013, le garde des Sceaux ne peut pas en retour donner des instructions au parquet. En saisissant le Conseil supérieur de la magistrature pour, dit-il, lever tout doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice, le président de la République pourrait ainsi obtenir un précieux avis pour convaincre les parlementaires de l'urgence d'adopter une réforme constitutionnelle pour l'indépendance de la justice, ce qu'aucun président n'a jusqu'à présent réussi à obtenir, faute de majorité.
C'était Jean-Philippe Deniau. Les stades et les hippodromes en France rouvriront au public le 11 juillet prochain avec un nombre maximal de 5000 spectateurs. Idem pour les salles de spectacle. Matignon l'a précisé cette nuit après un conseil de défense. L'exécutif confirme également la réouverture des cinémas à partir de lundi, ainsi que la reprise des sports collectifs, excepté pour les sports de combat. L'épidémie de nouveau coronavirus est toujours sous contrôle en France, selon les autorités sanitaires, qui précisent tout de même que le virus circule et de façon rapide, notamment dans le Val d'Oise et en Normandie. Des cas dépistés, souvent sans symptômes apparents. Pendant ce temps, la négociation à l'hôpital sur la rémunération des personnels a franchi hier une étape. Un projet d'accord est sur la table. Il prévoit une hausse générale des salaires et une rallonge pour certains métiers hors médecins. Dans la bulle économique publiée aujourd'hui sur notre site franceculture.fr et disponible en podcast, Marie Viennot se demande d'où pourraient venir les moyens financiers attendus justement pour l'hôpital. Le virus, le nouveau coronavirus qui circule donc encore et de façon virulente dans l'ouest de l'Allemagne en ce moment, dans le plus grand abattoir du pays. 730 salariés ont été testés positifs. Plus de 7000 personnes sont donc mises en quatorzaine pour stopper la propagation de la maladie. L'armée allemande et des volontaires de la Croix-Rouge sont sur place pour poursuivre la campagne de dépistage. Sur place se trouve également notre correspondant Ludovic Piétenu et il raconte.
Les crèches et les écoles de plusieurs villes et villages alentours ont été fermées. Elles ne rouvriront qu'à la rentrée. Il a suffi de quelques cas positifs chez des enfants de salariés de l'abattoir pour placer des classes entières et leurs familles en quarantaine. C'est une catastrophe pour tout le monde, dit ce transporteur routier. Il livre souvent cet abattoir et veut rester anonyme. C'est une entreprise pourrie. Le nombre de cas positifs prouve bien que c'est de l'esclavage. Un abattoir mortel pour les animaux et pour les travailleurs, peut-on lire sur une pancarte brandie par une poignée de manifestants défenseur du bien-être animal. Sur le parking, quelques voix s'élèvent pour pointer des abus, la sous-traitance d'employés est-européens, des Polonais mais moins qu'avant, aujourd'hui surtout des Bulgares et des Roumains comme Vincenzo. Il dit qu'il n'a pas de problème avec son chef puisqu'il est roumain lui aussi, il gagne sa vie, Quant aux conditions de travail, il est satisfait à 80%. 100%, c'est impossible. Mais Vincenzo ne rentre pas dans les détails, ne dit pas non plus comment il est hébergé. Pour certains, ce serait un peu les uns sur les autres, et donc une propagation plus rapide du virus, selon plusieurs associations locales.
Ce matin d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, alerte sur la vitesse de propagation du virus dans le monde. En Chine, en Inde, au Moyen-Orient et toujours sur le continent américain. Le Brésil a par exemple franchi hier soir la barre du million de cas de contamination au coronavirus, avec près de 49 000 morts dans le pays. Et plus au nord, aux États-Unis, pendant ce temps, le président américain n'en a que faire des mises en garde des autorités sanitaires. Malgré la progression, là aussi, de la pandémie, il organise ce soir son premier grand meeting de campagne pour la présidentielle de novembre. Rassemblement en Oklahoma, à Tulsa. En France, c'est le second tour des municipales qui se prépare. 15% des communes françaises sont concernées par ce second tour. Chaque matin, nous nous arrêtons dans l'une d'entre elles. Aujourd'hui, c'est à Strasbourg où tout peut basculer. La candidate écologiste est arrivée largement en tête au premier tour, devant son adversaire La République En Marche, puis la candidate socialiste. Candidate socialiste qui ne se désiste pas au profit des Verts. LREM, en revanche, a scellé une alliance surprise avec la droite, les Républicains. De quoi rendre le scrutin incertain, Margot Turgy.
Faire cavalier seul au second tour, pas d'inquiétude pour Jeanne Barseguian, convaincue que la crise sanitaire va renforcer le vote vert à Strasbourg.
Les pandémies et l'émergence de nouvelles maladies, c'est notamment lié à des questions environnementales. Cette crise sanitaire, elle n'a pas évacué les questions climatiques. Donc cette attente très forte de la population d'avoir une ville plus respirable, plus verte, elle est toujours présente, elle est même peut-être plus présente que jamais.
Capitaliser sur la dynamique du premier tour, malgré l'union manquée des gauches, c'est aussi l'espoir de Catherine Trottmann, la candidate PS.
Au premier tour, tout le monde attendait que notre liste soit dans les choux et que nous avons surpris par un résultat inattendu. Bien, j'espère que nous aurons la même bonne surprise et je joue gagnant.
Sur leur droite, Alain Fontanelle, le candidat à La République En Marche, allié surprise de Jean-Philippe Véter, des Républicains. Il mise sur le collectif.
C'est vraiment l'histoire de notre territoire, la Concorde. On est une terre où on sait travailler ensemble. Et bien, avec Jean-Philippe Véter, on l'a montré au nom de l'intérêt général des Strasbourgeois.
Une alliance avec la droite pourtant risquée, selon le politologue Philippe Breton.
Beaucoup d'électeurs qui ne sont pas à droite et qui sont majoritaires à Strasbourg se posent la question aujourd'hui de savoir pour qui voter pour être le plus efficace, pour empêcher la liste LAREM droite de passer. Il est possible qu'un certain nombre d'électeurs de gauche choisissent par efficacité de se porter sur Catherine Trottmann plutôt que sur les Verts.
Le repositionnement des voix du premier tour, c'est donc l'enjeu majeur du second tour des élections municipales à Strasbourg.
La Convention citoyenne pour le climat adopte ce week-end ses propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en France, tout en respectant la justice sociale. Cela va d'un changement de constitution jusqu'à la mise en place d'un écocide, en passant par l'obligation de rénover certains bâtiments. 144 propositions ont été adoptées hier soir. Elles seront soumises à l'exécutif. Une réunion est d'ailleurs prévue lundi 29 juin autour d'Emmanuel Macron. Et quelle action pour éviter le retour des déchets plastiques? Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises sur l'antenne depuis la crise sanitaire. Ces déchets, masques, gants qui viennent polluer un peu plus la planète. Il y a aussi les sacs plastiques de retour en masse à cause des livraisons de repas. En Thaïlande, par exemple, les associations environnementales estiment que le nombre de déchets plastiques a bondi de 30% cette année. Le gouvernement s'empare donc de la question, Nathanaël Charbonnier.
L'objectif des autorités thaïlandaises est de réduire d'un tiers le volume de déchets plastiques d'ici la fin de l'année. Un objectif qui sera difficile à réaliser malgré des mesures fortes, comme l'interdiction d'utiliser des sacs à usage unique dans les magasins. Mais le gouvernement pourra s'appuyer sur le combat de la jeune Lily. Âgée de 12 ans, cette fillette au sourire généreux arpente avec son paddle les canaux de la capitale pour les nettoyer.
C'est difficile, mais je vais être positive. Il y a toujours de l'espoir quand on sait qu'on a les moyens de résoudre un problème.
Un travail de titan qui n'effraie pas Lily, dont le prénom fait la balle à une des médias. On la compare volontiers à la Suédoise Greta Thunberg, ce qui n'est pas pour lui déplaire.
Greta est vraiment importante pour moi, pour ce qu'elle symbolise. Elle dit que les enfants ont un rôle à jouer. Elle veut que tout le monde participe et elle rassemble beaucoup de gens ensemble.
Et du soutien, Lily en aura besoin car la Thaïlande ne recycle que 19% de ses déchets plastiques et se situe à la 6e place des plus gros pollueurs des océans.
Nathanaël Charbonnier pour France Culture. Il y aura un peu moins de pluie aujourd'hui samedi au nord de la Loire. Les averses s'estompent au fil de la journée. Le soleil va toujours briller sur le sud. Ce matin, comptez 18 degrés à Rennes et à Lille, 19 à Paris, 20 degrés à Strasbourg, Grenoble et La Rochelle, 25 à Marseille.